Bonjour. À toute époque, il a fallu des visionnaires pour faire évoluer les mentalités. C'est ce que m'inspire la lecture de cet excellent livre d'un auteur américain. Son nom est Kermit Lynch et le livre s'intitule « Mes aventures sur les routes du vin ». Marchand de vin en Californie, Kermit Lynch dans les années 60 a commencé à voyager en France et en Italie, à y découvrir des vins et des vignerons. Il est le témoin d'un tournant pris ces années-là par l'agriculture française. Vers plus de mécanisation, plus de chimie à l'artisanat, commence à succéder une industrie, souvent à la faveur de la transmission à la nouvelle génération. Alors Kermit se met en quête des vins authentiques, ceux des vignerons et des vignerons qui ne souhaitent pas l'homogénéisation, ceux qui ont la préscience, et c'était rare à ce moment-là, que rien de bon ne sortira de ces approches nouvelles, que le savoir-faire des ancêtres doit être prolongé, que le progrès technique doit s'adapter aux exigences de la nature et non l'inverse. Une fois rentré au pays avec ses trouvailles, il a fallu faire découvrir ses vins à ses clients américains habitués à des goûts attendus, homogènes, et auxquels Kermit explique l'approche du vin nature à des consommateurs qui lui rapportaient parfois les bouteilles car celles-ci présentaient un peu de gaz à l'ouverture. Ainsi, cet Américain sur les routes du vin va devenir l'agent de nombreux domaines aujourd'hui célèbres, comme celui d'Antoine Arena en Corse, grâce à qui nous avons eu la chance de le rencontrer. On croise aussi dans ce livre la famille Tempier à Bandol ou Gérard Chave à Croz-Hermitage et bien d'autres encore. Aujourd'hui, l'homme a pris sa retraite, qu'il passe entre autres en Provence. Son entreprise est devenue un des importateurs majeurs des vins français et italiens aux États-Unis, mais pas n'importe quel vin, les bio, les natures, ceux que l'on appelle parfois les vins d'auteur. Lisez ce livre de Kermit Lynch, qui n'est pas du tout une nouveauté, puisque la première édition date de 1990. Il est disponible en poche aux éditions Payot, et s'il ne l'a pas en rayon, votre libraire n'aura aucun mal à l'obtenir. Ce 28e épisode s'intitule Vincent Flight, le Gewürz en mode majeur. Bienvenue dans la Terre à boire.
Et nous sommes donc pour ce troisième épisode du cycle autour des vins d'Alsace. Le dernier épisode était cette belle rencontre avec Christian Binaire, alors que nous dégustions son Pinot Noir alsacien, magnifique vin sans soufre, sans sulfite, sans filtration, plus nature que nature, avec même un chai bio...
Bioclimatique,
merci Patrice. Patrice Defay qui est donc avec nous, Laurent Delceau également, Hélène également du Little Wine Blog.
My Little Big Wine. On sent que ça va.
Ah, tu vois, je mélange tous les termes. Après le Pinot Gris, après le Pinot Noir, on arrive un peu sur les gros dossiers, j'ai envie de dire. L'Alsace, quand on dit un néophyte complet, l'Alsace, ça vous évoque quoi? Souvent, il y a deux cépages qui en sortent, le Riesling et puis...
Le Gewürztraminer.
Le Gewürztraminer. Pour parler de Gewürztraminer, on a encore la chance d'avoir un invité, d'avoir un vigneron avec nous. Bonsoir Vincent Flight.
Bonsoir Romain.
Merci d'avoir accepté cette invitation.
C'est gentil de parler de nos produits, c'est bien de nous mettre à l'honneur, c'est super sympa parce qu'on ne parle pas très souvent de notre petite région viticole.
Bah écoutez, nous ça nous fait extrêmement plaisir aussi d'aller découvrir et d'aller plutôt parler des régions. C'est vrai qu'on m'a déjà fait la remarque, hein, mais vous n'avez pas encore parlé de la Bourgogne et du Bordelais. Bon, voilà, ben on est content d'aller dans le Jura, d'aller en Alsace. Et vraiment, moi je suis vraiment ravi d'aller en Alsace et d'aller découvrir ces vins parce que comme vous dites, on n'en parle pas tant que ça, et il y a une richesse, déjà immense dans le terroir, dans les vins qui sont faits. On a eu l'occasion avec Christian Binaire d'évoquer aussi l'approche biodynamique qui est très en avance, en tout cas qui est très développée en Alsace et qui était en avance à l'image un peu de peut-être d'une région comme le Jura qui s'est beaucoup investi dans ces démarches-là. Donc ça nous fait d'autant plus plaisir évidemment. De parler des vins d'Alsace. On a dans nos verres un Gewürztraminer, cuvée Steinweg. Laurent a préparé quelques questions.
Déjà, j'aimerais effectivement, si vous voulez bien, Vincent, que vous nous présentiez un petit peu votre domaine, qu'on en sache un petit peu plus.
Donc, c'est un domaine familial. Hein. Je suis la 11e génération à travailler les vignes sur Ingersheim. Et à la sortie de mes études en 91, j'ai commencé à travailler comme aide familiale sur le domaine viticole avec mon père. Et assez rapidement, j'ai pris les rênes, les décisions, il y a eu de la casse de matériel, pressoir, pulvé. Il m'a laissé petit à petit faire, et moi j'étais très jeune. Et à l'époque, j'avais envie de travailler un petit peu différemment que ce que faisaient nos ancêtres. Et du coup, je revenais d'un stage en Californie, en Australie, et je me suis rendu compte que la richesse de notre patrimoine français, c'était la diversité de nos sols. Et sur une brève surface, on change assez rapidement de géologie. Et mon père, qui assemblait les vins de plaine et les vins de coteau pour faire un vin standard, bien équilibré, ben moi j'ai fait tout l'inverse. En fait, j'ai fait des micro-vinifications et on vinifie chaque génétique de sol séparément. Donc c'est déjà très complexe avec nos 7 cépages, 6 blancs et un rouge en Alsace. Et du coup, on multiplie encore tout ça par nos terroirs, quoi. Donc, sur 10 hectares de vignes qui produisent actuellement, moi, je travaille sur un grand cru, le Fürstentum, Marno Calcaro Grézeux, sur 3 lieux-dits ou 3 appellations intermédiaires, ce qu'on essaye de faire passer actuellement en premier cru. Donc, le Steinweg, alluvion granitique, le Dorfbourg, calcérolithique, et le Letzenberg, argilo-calcaire.
D'accord.
Voilà, donc c'est 3 génétiques de sol complètement différentes. Hein. Le Steinweg notamment, qui nous intéresse ce soir en Gewürztraminer, c'est issu d'un cône de déjection d'une rivière, hein, la Fecht, qui sort de la vallée de Münster. Et cette grande vallée de Münster, c'est une des plus grandes vallées en Alsace, qui est complètement perpendiculaire à l'exposition de la bande viticole alsacienne. Il faut savoir que la bande viticole alsacienne, c'est une bande de 300 mètres à 3 km de large sur 120 km de long. Donc, en fait, le vignoble est implanté sous les collines, sous Vosgienne, comme on dit. Donc, il y a 50 millions d'années, les Vosges et la forêt noire ne formaient qu'un seul massif. Donc 50 millions d'années, hein, ça fait un petit bout de chemin. Et avec les failles qui se sont créées, hein, il y a eu l'affaissement de la plaine du Rhin, qui a été rempli par les petites vallées qui sortent. Donc le Steinweg, c'est des galets roulés et du granit éboulé mélangé à du sable.
Des galets roulés comme à Châteauneuf-du-Pape.
Voilà, tout à fait. C'est du granit qu'on trouve qui est anguleux. C'est des gros mastodons. Et à la sortie de la vallée, 10 km plus loin, là où j'ai. Où c'est, ça fait un petit delta, en fait, un triangle. Hein. C'est un cône de déjection à la sortie de la vallée de Münster et qui a été ramené. Donc, tous ces galets roulés, ce fossé rhénan a été comblé par des graves d'alluvion. Hein. Et donc c'est du granit mélangé à du sable, et donc ça donne des sols très légers, filtrants, poreux, qui sont très très précoces. Et chaque année, c'est j'ai 4 hectares et demi dans ces Steinweg avec tous les cépages alsaciens. Et chaque année, cette bande, cette langue de ce triangle, ce delta, ce cône de déjection, il est vendangé en pré-vendange. Donc ça veut dire qu'on est obligé de demander au préfet une dérogation pour pouvoir rentrer et ces raisins qui sont mûrs avant l'ouverture officielle du banc alsacien.
Concrètement, vous vendangez à quelle période alors ?
Ben, moi, dans ma carrière, j'ai commencé à vendanger 3 années en août, ce qui est hyper précoce, hein, par rapport à mon père. Mon père, on décalait d'un mois dans toute sa carrière, le milieu de date de vendange. Ça tournait autour de mi-octobre, novembre, et on a quasiment avancé de un mois en moins d'une génération.
Ça, c'est le cas pour tout le vignoble français.
Je n'ai jamais commencé mes vendanges après le 21 septembre. Donc, c'est hyper précoce. Hein. C'est vrai que c'est très, très, très précoce. La poche de Colmar, donc, qui est à la sortie de la vallée de Münster, c'est une des zones les plus sèches de France. Pour idée, l'an dernier, en 14 mois consécutifs, on a eu un petit peu plus de 350 mm. Donc, l'an dernier, c'est une année particulièrement sèche. Et ça donne des particularités, hein, qu'on retrouve sur le vin, des vins très ouverts, très, très avenants.
Le Gewürztraminer s'adapte à ces conditions un peu extrêmes ou,
Alors, c'était un petit peu délicat. Dans le début de ma carrière, comme je vous ai dit, mon père, en fait, il utilisait les sols argilo-calcaires exposés nord, pour rafraîchir un peu ces vins qui étaient toujours trop puissants, trop alcooleux, avec des acidités hyper basses, des pH hyper élevés. Et ben moi, j'ai arrêté de désherber mes sols en 94 et on est passé en biodynamie. On a commencé un essai suite à des conférences. Hein. Donc, on a déjà fait une conférence, je crois que c'était en 96, avec François Boucher, conseiller en biodynamie, 97, Pierre Masson. Et puis, de fil en aiguille, on a accroché à ces pratiques et au début, je les ai faites sans conviction parce que il y a des collègues qui avaient commencé bien avant moi dans les années 60, début des années 70, en biodynamie. Et je me suis dit, moi, je suis un petit peu comme Saint-Thomas. Hein, je crois que ce que je vois est ce que je touche. Et je me suis dit, si eux y arrivent sans phyto, je vois pas pourquoi moi, j'y arriverais pas, quoi. Et du coup, je me suis lancé dans la biodynamie, et puis après 10 ans de pratique, ben, on s'est fait certifier, hein. Donc, il faut savoir qu'on a commencé sur un hectare, on a dynamisé à la main, la bouse de corne, la silice de corne, tous les préparats, du compost et tout ce qui s'ensuit, hein. Et puis, assez rapidement, on a vu, un végétal qui se comportait différemment. On a ramené de la santé, on a induit de la santé, au vignoble et des pH qui devenaient de plus en plus intéressants dans ces zones défavorables, hein, de très grande précocité, des acidités qui remontent naturellement, et on se dit, bah tiens, là, on tient quelque chose, on comprend pas tout ce qu'on fait. Quand on met 4 grammes de silice, qu'on dynamise ça dans 35 litres d'eau à l'hectare, on se gratte la tête, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, la viticulture que j'ai appris, c'était pas ça, quoi, en fait. Hein, j'ai appris... on gérait, en fait, les sols comme on gère un frigo, hein. NPK, il vous manque du beurre, vous rachetez du beurre, vous avez plus de lait, vous rachetez du lait. Voilà, donc tous les éléments minéraux étaient gérés de la même manière, comme on gérait un frigo dans une maison. Et en fait, la biodynamie m'a apporté tout autre chose, une autre vision du métier. On a appris à respecter les équilibres, à travailler avec les choses très simples, les positions de la lune. C'est qu'il y a des positions astrales qui font que, suite à ces positions, on a des attaques de maladies cryptogamiques, et donc on protège ces périodes-là avec des applications de prêle, tisane d'osier, voilà, consoude, et d'autres, bien d'autres plantes. Et de fil en aiguille, bah, on est arrivé à baisser les doses de soufre et de cuivre, le seul produit qu'on utilise encore en viticulture biodynamique. Il faut savoir que les doses en biodynamie sont nettement inférieures à l'agriculture biologique. Hein. Il me semble de tête, par exemple, pour le cuivre, c'est 6 kg par hectare et par an. Et en biodynamie, on doit être à 3 ou 4 kg. Quoi. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui...
C'est la bouillie bordelaise, c'est ça ou...
Voilà, de la bouillie bordelaise. Hein. Et j'arrive à tenir une campagne avec, en moyenne, les années à peu près normales, avec moins de 2 kilos de bouillie bordelaise à l'hectare, sachant que quand on était en conventionnel, on mettait plus en un traitement qu'aujourd'hui, j'en mets en une saison complète, quoi. Donc pour moi, ça a été une véritable révélation, et puis du coup, de fil en aiguille, on s'est mis à se pencher un petit peu aux techniques de cave aussi, pour travailler sans intrants. Et des millésies un petit peu compliquées comme 99, 2003, année de grande canicule, et ben on s'est retrouvé avec des maturités, pas de blocage physiologique de la plante, et par rapport aux voisins qui étaient restants conventionnels, hein, qui désherbaient leurs vignes, et on a réussi à recréer des équilibres dans les vignes, et du coup on s'en est super bien sorti, quoi.
Ça vous est arrivé du coup de sauter un millésime, enfin, d'être tellement exigeant avec les produits que vous aviez que bah, le résultat ne vous convenait pas et vous n'aviez rien sorti?
Non, depuis que je suis passé en biodynamie, ça ne m'est pas arrivé. Hein. On a vraiment, pour moi, ça a été une révélation, une facilité de travail dans les vignes et un non-interventionnisme en toutes les béquilles de l'œnologie, tous les produits, on a complètement raté. Hein. Aujourd'hui, j'ai un bidon de soufre dans ma cave et j'ai des vins beaucoup plus stables, on en utilise beaucoup, beaucoup moins. Hein. D'ailleurs, le cahier des charges d'Emeter aussi, à ce niveau-là, est beaucoup plus restrictif que le cahier des charges d'agriculture biologique. On a des doses de soufre nettement inférieures, et puis ça nous amène aussi, des fois, à faire des vins sans soufre, hein, des vins nature. On a des Crémants, des Pinot Noir, des Riesling, Sylvaner, on a déjà fait plusieurs cuvées, et qui sont vraiment d'une super qualité, d'une super fraîcheur. Hein.
Quand vous dites que parfois vous faites des vins nature, ça veut dire qu'effectivement vous vérifiez si c'est faisable. C'est pas quelque chose de systématique. C'est pas pour vous un dogme.
Non, pas. Alors moi je suis pas un ayatollah du sans soufre. On n'est pas à s'interdire dogmatiquement l'utilisation du soufre. Moi je fais des tests de tenue à l'air tout simplement. Donc déjà je vinifie un an sur lit de fermentation, cuve pleine ou pas pleine, ça m'a jamais posé de soucis. Les vins restent sur lit grossière et je veux absolument qu'il y ait un été, la chaleur de l'été qui passe sur le vin en cuve et la fraîcheur de l'hiver. Donc ce qui m'impose de vinifier, tous mes vins restent 10 à 13 mois sur lit de fermentation. Et on les met en bouteille pendant les vendanges de l'année qui suit.
D'accord.
Ce qui nous ramène une grande stabilité naturelle et on ne fait plus de collage et l'autolyse des levures a un grand travail de stabilisation et 10 à 13 mois après, on fait des tests de tenue à l'air. Tout ce qui tient très bien à l'air, on sort un verre tout simplement de la cuve, on le laisse à l'extérieur et on le goûte le lendemain, deux jours, trois jours après. Tout ce qui tient, ce qui est stable, on le tire tel que en nature. Et puis les vins qui ont des petites déviations, des petits débuts de piqûres ou des casses ou qui brunissent, ceux-là on les sulfite très légèrement, quoi. Ça va de 1 gramme à 3-4 grammes quand il y a vraiment des problèmes de stabilité bactérienne, quoi. Et du coup, on utilise 3-4 fois moins de soufre que ce qu'on faisait encore au début de ma carrière, quoi, dans les années 90, quoi.
D'accord.
Ça nous permet de travailler vraiment sans... avec une grande simplicité de travail en cave, quoi.
Et j'ai lu sur votre site que vous étiez un membre actif d'une organisation qui s'appelle les Vignes Vivantes. Vous pouvez nous en parler un petit peu.
J'ai été un des 7 présidents de Vignes Vivantes. Hein, c'est une association qui s'est créée dans la même période, en 97, sur la nécessité de créer des composts de qualité en viticulture. Donc nous, on avait été formés par ces gens-là. L'anthroposophie, en résumé, il faut être autosuffisant sur un domaine et... uniquement la viticulture, c'est un petit peu restrictif et moi ça m'a vachement parlé le discours de Steiner parce que quand j'étais jeune, mon grand-père dans le village, il avait 3 vaches, un cheval, 3 hectares de vignes, 2-3 hectares de céréales, un petit peu de forêt et puis c'est de la polyculture élevage. Et en fait, dans le début des années 97, quand Vignes Vivantes s'est créée autour de la qualité des composts, on avait un petit peu marre de se faire traité de poubelle, au niveau agricole, on récupérait toutes les bouts de stations d'épuration riches en métaux lourds pour fertiliser nos vignes. Et c'était des amendements qui étaient vraiment pas chouettes, quoi. On peut voir un petit peu ça dans certains coins en Champagne encore, avec des bouts de poupées, des bouts de verre qui traînent de partout. On devenait un peu la poubelle de l'industrie, quoi. Et du coup, on s'est dit, on va se mettre à plusieurs autour d'une table. On a commencé à 12 et aujourd'hui, on est plus de 90 personnes. Tous les grands domaines d'Alsace font partie de Vignes Vivantes, un domaine qualitatif, que ce soit en conventionnel, en bio ou en biodynamie. Il n'y a pas de chapelle, on est ouvert à tout. Et puis, de fil en aiguille, après avoir maîtrisé les composts, Yves Erodi, pédologue qui a encore appris la vie microbiologique des sols, nous a un petit peu orienté et a appris à comprendre nos différentes roches, comment les fertiliser, compost jeune, compost vieux, pour vraiment avoir une expression maximale du lieu, quoi. Parce qu'entre un granit, un calcaire, un schiste, des grès roses ou des choses comme ça, on a vraiment un travail spécifique à faire pour avoir un résultat. Ça se fertilise pas de la même manière, mais par exemple les Steinweg, alluvions granitiques, des très faibles capacités de rétention en eau et en éléments minéraux, c'est des sables et des galets roulés, je mets 1,5 tonne de compost chaque année. Dans les argilo calcaires, le Lettenberg ou le Fürstentum, marno calcaire ou gréseux, des sols beaucoup plus complexes, plus riches, avec beaucoup plus d'argile, l'argile à feuillet. Les feuillets ont une capacité de rétention 10 fois supérieure au sable. Et là, par exemple, on met entre 3 et 5 tonnes hectares de compost, mais on y va tous les 3 ans, parce qu'il y a une réelle capacité de rétention dans ces sols-là. Et du coup, ça permet d'avoir une viticulture de précision et pas de suralimentation, quoi. Donc le fait de travailler de cette manière-là, ça limite les interventions, parce que comme il n'y a pas de serre en excès dans le CEP et de surfertilisation, donc on limite impact des maladies cryptogamiques, et du coup, on recrée des équilibres, quoi.
Ouais, c'est
un peu Steiner qui avait décrit tout ça, quoi.
C'est une viticulture, enfin une vinification et un travail de vigneron qui est beaucoup plus à l'écoute du coup du sol et qui fait donc des dosages non pas homéopathiques mais beaucoup plus en lien avec le sol plutôt que de dire bah, chaque année je vais mettre 5 tonnes d'intrants et basta. Voilà. Quoi. Ça permet des réglages beaucoup plus à l'écoute de la nature. Quoi.
Tout à fait. Dans les années 90, quand mon père gérait le domaine, le dernier rapport qu'on a fait de compost, conseil de chambre d'agriculture, c'était 50 tonnes hectares, quoi. Ça brillait, il y avait des déchets de verre, il y avait des déchets en tout genre, quoi. Hein. Donc, moi, quand on s'est posé la question comment fertiliser, faire une viticulture de qualité, tout de suite, je ne me suis pas posé la question, on a adhéré à la vigne vivante. Hein. Et voilà, après, on a fait évoluer les pratiques et les techniques. Hein, et... Donc, bah, vous voyez ma bouteille de Gewürztraminer Steinweg, il y a une fleur dessus, c'est vraiment la fleur du terroir, quoi. Hein. Donc, pour la petite histoire, nos génériques, nos vins classiques, hein, de tous les jours, secs, fruités, on les vinifie sous une étiquette grise avec un pissenlit dessus. Steinweg, alluvion granitique, c'est une marguerite. Letzenberg, c'est une tulipe sauvage. Le Dorfbourg, c'est de l'ail des ours. Et Fürstentum, c'est une muscarie. Et pour les vendanges tardives, on a mis un coquelicot.
Ça donne vraiment envie d'aller se balader dans vos vignes, en tout cas.
Ouais, ça donne envie de venir. C'est vrai qu'il y a une belle homogénéité des étiquettes. Il y a vraiment une histoire que ça raconte. Elles sont superbes, hein, ces étiquettes.
Voilà, et puis donc, tout ce travail-là, il a été fait par l'observation. Parce que quand j'ai arrêté de désherber en 94, et à l'époque, je sortais d'une viticulture, d'un apprentissage classique, hein, intervention, désherbant, fertilisant et tout ce qui s'en suit. Et je me suis dit, bah tiens, je vais arrêter les antigerminatifs. Et puis, je recommencerai dans 4 ou 5 ans, quand ça repoussera. Puis finalement, 4, 5, 6, 10 ans sont passés, on n'en a plus besoin d'utiliser ces produits-là. On intervenait avec des lames à plat, des intercepts. La mécanique a sacrément évolué et on a pu lâcher toutes ces techniques, toutes ces pratiques de désherbage. Et puis, comme dit, après, on a passé en 97 à la biodynamie. Et là, on a encore fait un bond et du coup, des équilibres se sont remis en place dans les vignes. Des fleurs, aujourd'hui, j'ai toute une succession de fleurs qui se succèdent. Hein. Donc c'est ce que j'ai un petit peu utilisé avec l'abeille pour montrer à mes collègues vignerons qui n'y croient pas du tout. Hein. Moi j'étais un grand fervent à l'époque des phéromones en 98 pour éviter de mettre des insecticides dans le vignoble. Et on avait réussi à convaincre même des vignerons conventionnels sur 100 hectares de ne pas mettre d'insecticides et on travaillait avec des phéromones à l'époque. Ça a été gangréné au bout de 2 ans parce qu'il y a des gens qui ont pu jouer le jeu et c'est tombé à l'eau. Et puis, bah, 98, c'était les années où moi j'avais un petit peu d'antécédents au niveau de la biodynamie. J'ai des fleurs qui se sont mis à pousser de partout. Et on travaillait en enherbement naturel maîtrisé à l'époque. Et du coup, j'avais beaucoup de fleurs, beaucoup d'insectes. Et c'est un petit peu Steiner qui a décrit ça. Hein. Quand on fait le vide dans une culture ou on fait de la monoculture, quel est le parasite qui vient? Le parasite qui vit sur la culture. Et le fait d'avoir une diversité d'insectes, d'animaux, de papillons, d'abeilles et tout ce qui s'ensuit, ça fait qu'il n'y a aucune population d'insectes qui peut prendre le dessus. Et du coup, moi, ça fait 19 ans, là, cette année, ça va faire la 19e année, je ne fais plus d'insecticides, même pas de BT qui sont autorisés en agriculture biologique. Et du coup, en gérant les enherbements intelligemment, en roulant l'herbe, faut pas la faucher, parce que si on la fauche, on casse le cycle des fleurs. Les plantes vont pas au bout de leur cycle et elles pompent beaucoup plus d'eau, alors que si on roule l'herbe, on l'écrase avec un espèce de rouleau faca ou un rouleau émietteur d'une charrue, ça couche l'herbe, elle va au bout de son cycle, elle va à fleurs et après elle est plus concurrentielle pour la vigne. Et puis surtout, on a des fleurs toute l'année, donc ça ramène des insectes, des sauterelles en tout genre, et il n'y a aucune population à tordeuse ne peut pas prendre le dessus, quoi.
Le milieu a retrouvé son équilibre.
Exactement. Et ça, pour moi, c'est devenu un sacerdoce maintenant parce que il y a des tas de vignerons qui regardent un petit peu ce qu'on fait. Puis au début, quand ils m'ont vu laisser pousser de l'herbe dans des sols légers qui souffraient de sécheresse, ils me regardaient un peu de travers. Et puis les mêmes personnes, quand ils nous voyaient mettre des microdoses de compost, se foutaient de nous, quoi. Et finalement, aujourd'hui, 20 ans après, ben, ils sont tous à y mettre du compost parce qu'ils se rendent compte que j'ai plus de blocage de maturité et que ça fonctionne et que même quand il y a de l'herbe, on arrive à faire mûrir la vigne. Il n'y a pas de blocage parce que cette bande de sol sablonneux là, qui fait un triangle, hein, les Steinwegs. C'est des sols qui souffrent assez facilement de sécheresse, mais quand il y a de la vie dans le sol, on s'est rendu compte qu'un sol nu désherbé, le même jour à 2 mètres de différence par rapport à un sol couvert en herbé, avec même de l'herbe qui est en train de jaunir, en train de faner, crée une ombre portée, et on peut avoir jusqu'à 20 degrés de différence dans les 5 premiers centimètres de sol. Vous imaginez la vie microbienne, c'est pas du tout la même chose, et du coup il n'y a pas de stress hydrique, beaucoup moins l'impact du soleil, hein, comme l'an dernier on a eu beaucoup de sécheresse et très peu d'eau, et ben l'impact de la sécheresse se fait beaucoup plus tardivement, quoi.
Est-ce que
c'est une technique toute simple d'observation, et
c'est quand vous l'expliquez,
de bon sens
c'est
paysan, je dirais, hein.
C'est complètement limpide. Et si on parle du vin lui-même, vous dites en 20 ans, voilà l'évolution que vous avez vue. Qu'est-ce que vous diriez du Gewürztraminer que vous pouviez faire il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui, en quoi c'est pratique culturelle?
La différence, elle est pas compliquée. À l'époque, ce Gewürztraminer, on pouvait pas le laisser seul parce qu'il était instable. Hein. Il avait des pH qui dépassaient les 4,2. C'est une instabilité
trop peu acide.
Ouais, pas assez de le pH, l'acidité est pas assez puissante, et des acidités très très faibles et des pH élevés et des sucres à revendre. Donc, qui dit sucre dit problème de stabilité derrière. Et puis aujourd'hui, rien qu'en ayant changé les pratiques, l'équilibre se fait de par lui-même, quoi. C'est-à-dire que je sais maintenant, j'ai isolé les terroirs, on peut faire des grands liquoreux. Les terroirs ont fait des vins secs, les terroirs ont fait des vins intermédiaires, et du coup, c'est la nature qui me dit si c'est stable ou pas, le lieu où, dans les Dorfbourg, je peux faire des vins avec des sucres résidus, avec très peu de soufre. Steinweg, ça demande toujours un style un petit peu sec, hein. C'est un Gewürz que vous goûtez là, c'est pas un Gewürz qui est lourd, qui est pâteux. C'est un Gewürz qui est tout dans la subtilité, plutôt même dans la fleur que dans le fruit exotique.
Oui, je suis assez content parce que je retrouve pas trop le litchi et ça. Ouais, je suis assez content parce que souvent le Gewürz c'est du jus de litchi et là il y en a pas trop et c'est bien.
La grosse tarte à la crème de litchi.
Un peu exubérant, pâteux, et là du coup on est plus dans la finesse, la subtilité, l'équilibre.
Absolument. Il a une belle palette aromatique.
C'est explosion d'arômes, et comme vous dites, c'est pas du tout lourd, c'est le contraire de l'espèce de mauvaise image qu'on peut avoir du Gewürztraminer, que moi je concède, j'avais aussi. Là, on goûte un vin qui est à la fois très riche en arômes, ça c'est sûr, mais très léger, tellement léger.
Ouais, et puis long, persistant au niveau des caudalies, très, très long en bouche et avec une belle finesse, un bel équilibre, hein. Tout à fait d'accord. Donc ces terroirs, on essaye de les passer, on aimerait bien les passer en premier cru. Alors, ça va être difficile parce que c'est quand même pas très en pente, mais par contre c'est des vins qui sont reconnus depuis plus de 1000 ans, hein. On a retrouvé des vieux écrits où il y a des abbayes qui s'arrachaient le vin de ce lieu là et des moines qui avaient déjà des écrits sur ce petit triangle là, hein. Et c'est une bande qui va jusqu'à Colmar, hein, qui est très très réputé et qui est en vigne depuis très 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 longtemps.
Et dans le contexte du réchauffement climatique, vous sentez armé avec la biodynamie pour rester à travailler les mêmes cépages, ou vous réfléchissez à d'autres façons de travailler l'implantation?
On a fait des grosses erreurs en viticulture, hein, la génération d'avant et le début de la nôtre aussi. On a tous planté du clone, ça c'est une grosse erreur pour résister maintenant au problème qu'on a, l'ESCA. Moi je dis souvent, par exemple en Riesling, on n'a rien parfait en Alsace, on a le clone 49 et on n'a que ça. Ça fait 60 ans que tout le monde plante que du clone 49. C'est une grosse bêtise. Il y a une cinquantaine d'années, on avait, dans le cépage Riesling, on avait plus de 170 entrées, hein, plus de 170 types de Riesling différents. Et on a perdu tout ça, toute cette diversité, cette complexité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a la maladie du bois, comme l'ESCA, qui vient s'implanter, c'est d'autant plus pire avec le réchauffement climatique, hein, parce qu'on a des à-coups, hein. Il faut voir le cep de vigne comme un espèce de tuyau avec plein de tuyaux dedans. Et puis quand d'un coup, il fait sec, il y a un stress hydrique et ça crée des problèmes de circulation, hein. C'est comme des vaisseaux sanguins qui s'encrassent, quoi. Et après, on a l'apoplexie, ça facilite le développement des maladies. Bah, si on avait une diversité de Riesling ou de Gewürz, on aurait beaucoup moins de soucis de déperdition. Hein.
Mais il n'y a pas un certain nombre
faute,
de...
On a, on...
Pardon, il n'y a pas un certain nombre de domaines qui ont fonctionné historiquement avec de la sélection massale ou...
Alors, on a tous essayé de faire un peu dans notre coin de la sélection massale à gauche, à droite. On a lancé, je fais aussi partie du Stade du Rhin, on a fait une grande recherche de toutes les vignes qui étaient pré-cloniques. Et puis, on a fait des sélections, on a refait des sélections visuelles. Je pense que c'est l'avenir de la viticulture. Hein. On a été, vous savez, les objectifs, c'est un grand, moi je vois ça comme un grand balancier qui va d'un bout à l'autre, d'un extrême à l'autre, et il y a toujours un juste milieu. Donc je pense que dans la sélection clonale, à un moment donné, il fallait produire, on a été très fort pour faire des super Riesling Clone 49, par exemple, hein. Des arômes productifs et tout, mais aujourd'hui, il montre des signes de faiblesse avec le réchauffement climatique. Mmh. Et du coup, si on avait encore de vieux Riesling, petits grains, avec des super acidités, on aurait un petit peu moins de soucis. Puis on se rend compte que j'ai aussi, au sein de Vigne Vivante, remis un conservatoire en route de vieux cépages alsaciens, qui, à mon avis, c'était une grosse erreur. Tout était conservé à Vassal, en bord de mer, à Montpellier, dans le franc de pied, dans les sables. Et le fait que nos cépages étaient soient conservés dans des zones non gélives, ça aboutirait à une modification génétique naturelle. Hein. Et on a voulu rapatrier tout ça en Alsace et enrichir ce conservatoire de vieux cépages et ramener de la diversité pour nos vignes, pour pouvoir refaire de la sélection. Et ça, à mon avis, c'est primordial. Hein. Avec le réchauffement climatique, on n'y coupe pas, d'après moi. On va être obligé de... C'est ça ou passer sur d'autres cépages. Parce qu'il y a vraiment... On commence vraiment à être dans des limites avec les canicules successives qu'on a, et puis il pleut de moins en moins, il pleut beaucoup en hiver, les pluies qui tombent, c'est tout de suite des torrents. Et les petites pluies fines qu'on avait dans ma jeunesse, on les a de moins en moins, quoi. Ça devient un problème. Quand avant, on avait des petites bruines au printemps. Là, maintenant, c'est des orages ou rien du tout, quoi. Donc, ça devient un petit peu compliqué, quoi. Mmh. Des longues périodes en été sans une goutte de pluie pendant plusieurs mois. Hein. On voit maintenant régulièrement, quoi.
On comprend à vous entendre que ça rend d'autant plus essentiel finalement cette approche biodynamique qui permet au sol de trouver son équilibre, d'être moins soumis justement en cas de sécheresse, de garder un minimum de fraîcheur parce qu'il y a une vie, parce qu'il y a une ombre portée par les plantes. Toute cette logique-là n'en est que plus... plus pertinente et évidemment on a envie de dire que surtout pas changer les cépages parce que ce Gewürztraminer, ce Riesling sont vraiment les cépages identitaires du terroir ah, alsacien.
Ils sont là, c'est pas pour rien, hein. Les anciens ont quand même préservé le meilleur à chaque fois et il faut quand même leur laisser ça. Il y a peut-être eu des petites erreurs de stratégie de fait à certains moments. On a délégué les pépinières et ainsi de suite, mais on peut, c'est pas trop tard pour rattraper le coup. On perd beaucoup en ce moment avec les lois européennes qui financent uniquement du clone, l'arrachage de vieilles vignes, il faut replanter des palissages neufs, ça c'est un petit peu dommage. Le côté politique là, on est en train de faire de grosses erreurs à mon avis, hein, à mon avis personnel à moi, ça tient qu'à moi, ce raisonnement là, mais je pense qu'on est en train de perdre toute la vieille diversité, les vieilles vignes qu'on avait là, je vois dans le village toutes les vignes étroites, les anciennes vignes qui datent des années 40, 50, là, elles sont en train d'y passer parce qu'on finance soi-disant de la restructuration, de l'amélioration, mais pour moi, c'est de la perte de diversité, c'est une erreur. Et au profit des clones, et ça, c'est une grosse erreur, quoi.
Ouais, on comprend.
Et la biodynamie m'a appris à avoir diversité, à avoir... beaucoup plus large, équilibre en tout genre. Et du coup, Vigne Vivante, ce qu'on a recréé, en fait, c'est ce que mon grand-père avait sur son exploitation. C'est-à-dire qu'on travaille en partenariat avec les agriculteurs de plaine. On récupère leur paille. On récupère, avec les agriculteurs de montagne, on récupère les fumiers. Ils sont dans des zones d'altitude où ils peuvent pas sortir ni les lisiers ni les fumiers en hiver. Et puis nous, on leur donne des prés, on leur donne de l'herbe, et on a des échanges comme ça à trois. On recrée en fait ce qui devrait arriver, ce qui devrait exister sur une exploitation, ce que Steiner avait expliqué, l'autosuffisance en fertilité à tous les niveaux, quoi. et gérer ça en bon père de famille, sans déchets, quoi. Donc nous, nos mares de raisin, on les garde pour nos composts, on les mélange au bois de taille, on achète des fumiers aux agriculteurs de montagne, donc on mélange vache, mouton, cheval, et on se fait nos propres mélanges. On a trouvé les bons équilibres pour les sols légers, les sols plus riches, plus gras, et du coup ça fonctionne super bien maintenant, et moi ça m'a enlevé une grosse pression de maladie cryptogamique, et du coup une aisance de travail. On peut se consacrer plus à la vigne, au cep, et on traite beaucoup moins. Moi je traite deux fois moins que ce que je traitais il y a 20 ans, hein. Une année normale, c'est maintenant c'est entre 3 et 6 traitements, 6 passages maximum, hein. Aujourd'hui, il y a des gars en conventionnel, ils dépassent les 13, 14 passages, quoi. C'est un peu beaucoup, quoi.
Est-ce que vous allez jusqu'au bout du raisonnement en disant tout le travail se fait dans la vigne et on fait plus rien dans le chai, ou il y a encore un peu de travail dans le chai, je sais pas, sur la vinification?
Bon,
est-ce que vous utilisez des bois, des inox, enfin, comment vous vinifiez?
En cave, moi j'ai tout style de contenant, hein. J'ai du béton pour les macérations des rouges. Mon père avait construit en 78, quand il est sorti du village, une cuverie en acier émaillé. C'était pratique pour thermoréguler les cuves. Là, pareil, depuis qu'on est passé en levure indigène, moi j'avais investi en 2001, quand j'ai construit la nouvelle cave, quand j'ai agrandi le chai, on avait mis une clim surdimensionnée pour faire aîner les montées de température de fermentation, mais on travaillait en levure sélectionnée. Donc c'est des Ben Johnson de la fermentation, ça montait à des températures pas possibles, fallait les stopper, sinon ça monte à plus de 40. Et quand on travaille en levure indigène, ça dépasse rarement 24 degrés, quoi. Ça fermente entre 18 et 22 degrés. Uh-huh. 24 degrés, c'est un gros pic de... Et là, au niveau aromatique, là, vous développez des choses intéressantes. Et c'est vraiment une façon de travailler complètement différente, hein. Et puis quand on met pas d'insecticides sur la et d'antifongique sur les pellicules de raisin, on peut très bien travailler des levures indigènes, hein. Il y a aucun souci, hein. Et d'ailleurs, pour moi, les antifongiques, c'est des sélectionneurs à champignons malodorants, hein. Tous ceux qui ont des problèmes de faux goût, qu'on retrouve dans certains vins, goût de bouchon, goût de liège, goût terreux, goût... C'est parce qu'ils utilisent certains insecticides. Je fais beaucoup de dégustations chez des gens conventionnels, hein. Je suis pas sectaire. Mais il y a des goûts de cave qui, pour moi, sont liés aux produits qui sont utilisés toute l'année, hein. Quand on a compris ça,
prochaine émission du goût des pesticides.
Oui.
Le bouquin qui est sorti, là.
Cette étude récente sur le goût des pesticides.
Très, très bon bouquin et très bonne idée que de goûter des pesticides dans l'eau.
Fallait y aller là, mais ils l'ont fait.
Ouais,
ils l'ont fait.
Tout à fait.
En tout cas, moi, je vous remercie, Vincent Flight, parce que nous, ça fait 6 mois qu'on fait cette émission, qu'on tourne autour de ces thèmes du bio, de la biodynamie. Vous êtes un de ceux qui l'explique le plus simplement, le plus clairement. Ça paraît tellement évident, tout ce que vous expliquez. Voilà, j'ai l'impression qu'on a l'image d'une manière si limpide. J'espère que les gens qui nous écoutent sont maintenant conscients de ce qu'on fait et de ce qu'on peut faire pour sauver justement ces terres. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans le vin, mais c'est presque anecdotique en fait. Alors c'est terrible parce que c'est notre clé d'entrée, c'est de boire des bons vins. Mais en fait, la logique de ce que vous expliquez, c'est juste l'évidence même de prendre soin de la nature, de la laisser trouver son équilibre.
Respecter.
Et puis j'aime bien aussi l'idée que la façon dont vous l'avez présenté, comme c'est pas une vision sectaire au départ, de se dire vous avez découvert Steiner et ses théories autour de la biodynamie, et puis c'est le travail qui vous a convaincu de la pertinence de cette approche. C'est pas du tout une position dogmatique de départ. La démonstration s'est faite par l'expérience depuis 20 ans. On a quand même le sentiment que le XXe siècle est passé à ravager des siècles et des millénaires de savoir-faire, et que maintenant, bah, il faut mettre...
Et on revient aux fondamentaux.
C'est ça. Beaucoup d'énergie de gens comme vous et comme beaucoup d'autres vignerons pour essayer de ramener un peu de raison dans tout ça, d'oublier un peu tous les excès du XXe siècle pour revenir à quelque chose de plus naturel et retrouver, avec l'apport quand même de la science, hein, c'est pas une vision rétrograde, hein, c'est quelque chose au contraire de très progressiste. Voilà, bravo. Bravo de ce que vous faites, du vin que nous on est en train de boire, et puis bravo de savoir l'expliquer aussi simplement, parce que là, voilà, on a vraiment reçu un cours... autour de cette approche biodynamique, voilà, et puis de vin, d'une façon de faire le vin, voilà.
Bah, c'est comme ça que je vois les choses après 25 ans de pratique. Et c'est vrai qu'un peu de bon sens paysan, c'est une grosse économie, c'est de la non-dépense, c'est de l'économie financière. Hein. Moi, quand je fais mes bilans, mon comptable me dit, mais je sais pas comment vous faites pour dépenser aussi peu en phyto. Je dis, ma vie, on n'en a pas besoin, alors j'en mets pas, quoi.
Bah oui.
On a retrouvé des équilibres. Quand on surfertilise pas la vigne, bah, y a beaucoup, beaucoup moins de soucis. Hein, et on arrive à être rentable tout de même. Hein. Je veux dire, moi, j'ai pu monter mes prix de mes vins et ça a été salutaire. Hein. Aujourd'hui, c'est clair. Et c'est une fois ci deux, cette histoire de petits rendements. Hein, parce que même en biodynamie, on peut surfertiliser une vigne. Hein, c'est pas un problème. Hein. Mm. C'est pas un souci. On ramène le double de compost ou des lisiers ou des choses comme ça en plus que ce que la vigne, la capacité du sol est capable de maintenir et on peut faire des grosses erreurs agronomiques en biodynamie aussi. Hein. C'est ça qui est intéressant dans ce métier-là, quand on apprend à dompter tout ça, à mesurer. Et, comme dit, moi j'ai deux pères dans la viticulture, hein, c'est Pierre Masson et Yves Erodi, qui m'ont réappris mon métier que j'avais appris à l'école, hein, tout simplement. Hein. Quand on voit l'âge qu'ils ont, ces braves gens, c'est dommage qu'il n'y a pas autant de jeunes qui travaille dans ce domaine-là, la vie microbiologique des sols, c'est super intéressant. Il ne s'est plus enseigné dans les écoles de viticulture, c'est un petit peu dommage. Quoi.
Vous n'êtes pas le premier à nous dire que la première démarche de vigneron, c'est de désapprendre tout ce qu'il a appris à l'école. Vous êtes un certain nombre de vignerons à nous expliquer cette incongruité. Vous savez, on a l'habitude, nous, quand on déguste un vin comme ça, de se poser la question avec quoi on va le boire, qu'est-ce qu'on va manger en même temps que ce vin, et puis souvent on se la pose entre nous, puis là j'ai envie de vous la poser à vous, vous nous recommanderiez quoi comme accord avec votre Steinweg Gewürztraminer?
Ce qu'il y a de bien avec ce Gewürz là, c'est qu'il est facile à accorder, on peut le prendre tout simplement tout seul en apéro au milieu de l'après-midi pour se faire plaisir le soir.
C'est pas moi qui l'ai dit, voilà.
Et
je vous rejoins.
Et puis c'est aussi tout simplement avec des plats épicés. Le Gewürztraminer aime bien tout ce qui est fort en goût, fort en épices.
Un petit curry.
Des fromages de caractère. C'est des accords qu'on fait très peu souvent, des blancs avec des fromages. Mais ce Gewürztraminer, sur un bleu, sur un roquefort, sur un Münster, c'est un délice, quoi.
Ah, vous êtes au bout de la vallée de Münster, ça.
En plus.
Ouais. En plus, c'est écrit dessus, c'est comme le port salut.
Voilà, on n'a pas la chance d'avoir un Münster, mais on a un bleu, on a une petite fourme d'Ambert, on a quelques petites charcuteries,
voilà.
On a un Brie à la truffe qui marchait bien avec le Pinot Noir, mais je l'ai pas encore goûté avec votre vin. Je dis tout de suite parce que j'ai peur d'oublier que votre vin, on l'a trouvé à l'ABC du vin, qui est la cave de l'excellent restaurant La Truffière, et grâce à notre amie Florence Aragoni qui a participé également. Et qui reviendra dans la terre à boire, et c'est elle d'ailleurs qui nous a mis en relation, et on la remercie pour cela, et on invite les amateurs à aller à l'ABC du vin près de la place de la Contrescarpe. Merci Vincent Flight.
Bah, je vous en prie, c'est ma femme qui a fait un gros travail j'avais pas un client à Paris il y a encore 10 ans, et à force d'y aller, d'y retourner, elle nous a mis dans pas mal de bonnes boutiques, de bons restaurants, de bonnes caves. Et puis du coup, c'est vrai qu'on a pas mal de retours, parce que Paris, à ce niveau-là, est assez intéressant. Il y a beaucoup de gens qui y passent et on a beaucoup de retours de la part de tous ces cavistes. Quoi.
Ouais, je vous confirme que voilà, nous, on est parisiens, on est un peu loin de la terre, mais du coup,
On est séduits.
C'est ce qui nous en rapproche, et on est séduit par votre vin.
Il faut venir voir nos tulipes, et dans 15 jours, elles vont sortir avec les premiers rayons du soleil qui réchauffent un petit peu toute cette atmosphère. Là, ce matin, j'étais dans les vignes, il y a plein de tulipes sauvages qui sont en train d'arriver. Cette année, il y en aura un paquet, et c'est un super spectacle, quoi. De voir toutes ces fleurs se succéder toute l'année, c'est super sympa.
On prend les billets de train, et puis on arrive. Voilà.
On va essayer de cumuler avec les vins libres d'Alsace de Christian Miner début mai.
Ah bah oui, non, mais on a une tournée à faire dans le Jura, on a une tournée à faire en Corse, et puis maintenant on a une tournée à faire en Alsace. C'est voilà, des régions tellement, tellement belles et des belles rencontres. Merci infiniment Vincent Flight, et à bientôt. Bon courage dans les vignes et pour le millésime 2018.
Eh ben, je vous remercie. Bonne journée à vous. Et
merci.
Puis, merci d'avoir parlé de notre région et du domaine. Ça me fait plaisir.
Tout le plaisir est pour nous. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir. Merci bien. Au revoir.
Voilà, une émission un peu longue, mais ô combien intéressante avec, avec donc Vincent Flight et ce Gewürztraminer. Voilà, juste magnifique. On se retrouve pour la dernière étape qui sera donc autour d'un Riesling. Non, que dis-je, de deux Riesling qu'on va pouvoir donc comparer. À bientôt Laurent, à bientôt Patrice et salut Hélène. À très vite.
Salut.
Ciao.